Bonjour Marc-Henri Soulet, professeur de sociologie, titulaire de la chaire de travail social et politique sociale de l'Université de Fribourg en Suisse, a été l'un des résidents annuels de l'Institut d'études avancées de Nantes. Qu'est-ce qui l'a attiré dans le projet de l'IEA ?
Qu'est-ce qui m'a poussé ?
Ah, on vous a poussé ?
Ce sont des collègues qui m'ont invité à déposer ma candidature. Et ce qui m'a attiré, c'est justement, comment dirais-je, à la fois la liberté d'esprit et d'être en décalage, pas moi mais l'institution, en décalage avec les tendances institutionnelles, académiques actuelles, où on nous pousse, on exige une productivité maximale, au détriment parfois de, je vais peut-être un peu sévère, au détriment parfois de la qualité de la production. Et là, il me semble qu'on est dans un cadre où justement, il y a une sorte d'invitation à prendre son temps, à réfléchir ensemble. Et je crois que c'est la plus belle chose qui puisse être. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai effectivement accepté d'être poussé par mes collègues.
Comment ça se passe ? Vous faites des séjours réguliers ?
Non, j'étais résident, comme la plupart de mes collègues, du 1er octobre jusqu'au 30 juin. Donc, en permanence, en quelque sorte. Alors, quelques collègues sont là de manière un peu plus fractionnée, 3 mois ou 6 mois. Mais je pense que la bonne mesure, c'est 9 mois pour prendre le temps de la décantation, de la décompression et aussi, dès lors, d'une réflexion commune transversale.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans la sociologie ou qu'est-ce qui vous a poussé ?
À l'origine, je voulais faire des études d'anthropologie en France. Et quand j'ai commencé mes études, il n'y avait pas de licence d'anthropologie. Donc il fallait d'abord faire une licence de sociologie. Donc j'ai fait de la sociologie pour pouvoir faire de l'anthropologie. Et puis, ma foi, je me suis laissé prendre au jeu. Et j'ai continué en sociologie. Depuis 27 ans maintenant, je suis titulaire d'une chaire de travail social et politique sociale en Suisse, dans l'Université de Fribourg. Ce qui m'a amené au travail social, ce sont des considérations purement alimentaires. J'ai fait une thèse en sociologie rurale, à un moment donné où les paysans, comme on le disait, c'était la fin des paysans, et qu'il n'y avait plus beaucoup de perspectives dans ce domaine. Et de créer, avec la loi de 71, la possibilité de faire de la formation continue à l'université. Donc j'ai commencé à enseigner à l'université dans le cadre de la formation continue, la loi de 71, dans le domaine qui s'ouvrait alors, qui était celui du travail social. Et donc depuis, je m'en suis fait une spécialité, et des politiques sociales.
Sans en souffrir, non ?
Non, ça va. Non. Même si, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, les études autour des questions que l'on appelle plus rurales, de sociologie rurale, mais des questions alimentaires, des questions d'écologie, des questions de traitement des animaux, sont redevenues sur le devant de la scène.
Vous revendiquez d'une école de pensée ?
Aucunement. Appelons ça l'éclectisme. Appelons ça peut-être aussi l'idée que je vient d'une génération où les écoles étaient en train de perdre de leur importance. Et donc, il a fallu vivre dans un univers où, ma foi, on devait prendre sa place et se situer par rapport à un champ en recomposition.
Comment on peut, d'une manière simple, expliquer vos travaux ?
C'est deux choses. Peut-être, d'abord, il y a une quête de quelqu'un qui travaille depuis longtemps sur cette question-là, qui a écrit un certain nombre de textes et qui a envie de produire ce qui serait un travail de synthèse de ce qu'il a essayé d'effectuer. Et donc, mon idée, devant l'insatisfaction que j'ai pu ressentir en lisant, malgré tout leur intérêt, les travaux de nombreux de mes collègues, c'était le fait que j'avais le sentiment qu'on n'avait pas réussi, et pour cause, ça n'est pas évident, à expliquer ce qu'était le travail social. Expliquer d'un point de vue, on va dire, théorique en tant que tel. Et puis, la deuxième chose, je travaille beaucoup avec des acteurs de terrain, et j'ai pu percevoir depuis de nombreuses années la difficulté qu'il y avait à rendre compte de ce que faisait un travailleur social. Et très souvent, le résultat est « c'est inexplicable, c'est indicible, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas du sérail » ou « vous ne voulez pas nous dire parce que vous ne voulez pas être contrôlé, surveillé, évalué ». Donc une sorte de dialogue de sourds. Et moi, mon idée fondamentale, à côté de ce projet théorique, c'est d'essayer de mettre en vue ce qui pourrait être les caractéristiques à la fois par essence et à la fois contextuelles de ce qu'est le travail social. Et mon hypothèse forte, c'est que si c'est aussi difficile à expliquer, c'est très probablement parce que c'est dans un champ extraordinairement ouvert, indéterminé, paradoxal. Et que c'est l'entrée par laquelle j'ai choisi de développer ces travaux à l'Institut d'études avancées, c'est de dire, essayons de comprendre ce qu'est le travail social sous l'angle d'une quadruple importance de l'incertitude ou de l'indétermination.
Vous avez des éléments de réponse maintenant sur ce qu'est le travail social ?
Comment expliquer ça ? Par exemple, ça sert à quoi le travail social ? Qu'est-ce que fait un travailleur social ? Difficile de répondre. Pourquoi ? Par exemple, il y a un de mes collègues qui avait écrit il y a une trentaine d'années, pour commencer un ouvrage, il avait dit, quand on voit un jeune monsieur, chevelu, à l'époque chevelu, avec un adolescent en train de jouer au flipper, et qu'on apprend qu'il est un éducateur de prévention, et qu'il est payé avec notre argent, on commence à se dire, on se moque de moi. Parce que, objectivement, le travail qu'il est en train de faire, jouer au flipper, celui que je vois formellement, jouer au flipper, sur le fond, c'est difficile d'admettre qu'il est payé à faire ça avec mon argent. Bien sûr, la réponse, si je demandais à l'éducateur de prévention, c'est de dire je suis en train de construire un lien positif avec un jeune qui est en rupture de relation avec les institutions ou avec sa famille. Mais il faut une explication, en quelque sorte, interne pour que ça soit compréhensible. Et si on regarde de l'extérieur, la quasi-totalité des démarches soit se réduisent à des activités factuelles et faiblement pertinentes ou pas du tout compréhensibles, soit doivent être explicitées et on ne peut les expliciter que si on comprend de l'intérieur les logiques qui sont mises en œuvre. D'où mon idée est d'essayer de dire cette contradiction apparente, elle est pas du tout un problème, elle est normale. Il est tout à fait normal qu'un certain nombre de tâches ne peuvent pas être explicitées formellement par, comme si je visse quelque chose ou si je tourne une pièce, par l'acte que je fais. Et en même temps, je ne peux pas le réduire à une intention qui serait mystérieuse ou nébuleuse pour quelqu'un qui m'observerait. Donc, c'est cette dimension trouble, opaque, qui me semble être une des premières caractéristiques. La deuxième, à quoi sert mon travail ? À la collectivité ? Permettre qu'il y ait un peu plus de cohésion, permettre qu'il n'y ait pas trop d'actes qui soient des actes, on va dire, de déviance, de délinquance ou autre, et donc de contenir, entre guillemets, le caractère déviant d'un certain nombre de personnes, et donc les renormer, ou au contraire, mon travail, vise-t-il ces individus et leur permettre d'exprimer leurs potentialités qui sont déniées par un certain nombre d'éléments liés à leur histoire personnelle, à leur rapport aux institutions et tout ce qu'on veut. En gros, je sers à qui ? Je sers qui ? Même si je suis payé par les uns et que je travaille avec les autres, auprès des autres, pour les autres. Mais je fais quoi ? Je sers qui ? Bien sûr, vous répondrez les deux à la fois. La question est, tout dépend de l'angle que l'on considère. Et moi, j'essaie de dire, cette indétermination, elle est constitutive. Prenons-la au sérieux et disons, de la même façon que l'acte n'est pas transparent, la fonction, la mission n'est pas transparente en tant que telle. Et que dès lors, c'est sur cette interprétation que l'on doit travailler. Même chose, je suis avec le client avec lequel je suis censé travailler. Comment je travaille avec lui ? Je ne maîtrise rien de ce que je fais avec lui. Il a sa propre histoire, il a ses propres contraintes, et moi je dois essayer de faire rendre légitime mon activité, de me faire accepter par lui, de le faire consentir à mon intervention, pour qu'il puisse accepter de travailler avec moi, de faire un bout de chemin avec moi, de construire un projet avec moi, etc. Donc, de montrer que mon activité est une activité relationnelle et dans laquelle je dois a priori payer de ma personne pour que même s'il est sous un mandat administratif ou judiciaire, le client puisse accepter, entre guillemets sur le terme accepter, de travailler avec moi. Donc, consentir de façon volontaire et non pas contrainte à faire un travail sur lui-même pour modifier son rapport au monde, modifier ses projets, modifier la façon dont il considère son environnement proche, etc. Donc, là encore, je dois à la fois le considérer comme quelqu'un qui a plein de potentialités et plein de limites, parce que sinon je ne serais pas là. Quelqu'un qui est à la fois coupable de ce qu'il fait, mais pas responsable. Parce que s'il était trop responsable, sur le fond, il n'y aurait aucune raison de pouvoir apporter un soutien auprès de cette personne. Donc, si vous, vous voyez, ces contradictions, ces paradoxes me semblent être au cœur du travail social. Et donc, dès lors, mon idée est de tenter de réunir cette dimension d'incertitude et d'indétermination pour pouvoir tenter de qualifier concrètement ce que travailler socialement veut dire. Quelque sorte, suis porté par un certain nombre de valeurs qui sont, peu importe quelle nature, qui sont des valeurs orientées vers autrui, comment je peux considérer que pour aider autrui, il faut perdre du temps, alors que sur le fond, le temps est compté. Et sur le fond, je souhaiterais qu'on essaye d'investir au maximum l'énergie pour les aider. L'idée importante, c'est qu'il ne faut pas investir de l'énergie, il faut perdre du temps. J'ai essayé de développer une notion paradoxal que j'appelle de travail social palliatif. C'est une provocation. Comme il y a de la médecine palliative, qui a mis des années à être reconnue comme étant une médecine qui supposait des compétences spécifiques, eh bien, il faut admettre qu'il y a probablement toute une part de l'aide à autrui qui ne peut pas être finalisée, en disant qu'il ne peut pas être orienté vers une insertion directe. Je vous aide pour que demain vous ayez un job. C'est beau, c'est parfait. C'est irréaliste à 90% du temps. Près de, excusez-moi de prendre l'exemple de la Suisse dans laquelle je suis, près de 80, je vais prendre la formule helvétique, près de 80% des personnes qui entrent dans des programmes d'insertion ne trouvent pas de travail à la suite de leur passage dans les programmes d'insertion. Moralité, ça signifie que les programmes d'insertion servent à quelque chose, mais certainement pas à insérer. Alors posons-nous la question, à quoi ça sert ? Et ça sert très probablement à des personnes pour leur permettre de reconstituer alors, de la confiance en elles-mêmes, un rapport au monde qui soit un rapport, en quelque sorte, dans lequel elles soient moins dans un statut victimaire, en disant c'est de la faute des autres, ou on m'a martyrisé, etc. Donc ça veut dire perdre du temps de la relation, perdre du temps de la reconstitution, et non pas avoir une finalisation immédiate pour déboucher sur une insertion ou un résultat tangible et visible, comme beaucoup de tendances aujourd'hui nous invitent à le considérer, soyons efficaces. L'efficacité en la matière n'est pas là où on pense. Sur le fond, nous sommes dans un espace, et c'est un de mes collègues qui l'a fort bien dit, un espace de simulacre. C'est une fiction, au sens très fort du terme, du latin fingere qui est faire. On fait quelque chose avec de la fiction. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on crée un espace. Un de mes autres collègues parlait, les programmes d'insertion sont des programmes d'assistance déguisés. C'est brutal, mais c'est peut-être pas entièrement faux. Seulement, aucun homme politique aujourd'hui voudra admettre qu'on finance de l'assistance. Par contre, tout le monde veut bien financer de l'insertion et accuser un certain nombre de boucs émissaires, dont des travailleurs sociaux, le marché du travail et tout ce que vous voulez, de ne pas être capable d'insérer des personnes qui suivent des programmes d'insertion. Mais sur le fond, tout un chacun sait bien, aussi bien ceux qui sont dans les programmes que ceux qui les accompagnent, que ceux qui les financent, que ces programmes ne sont pas des programmes qui visent à insérer, sont des programmes qui visent à reconstituer une énergie, une compétence, une volonté d'être au monde, une appétence au monde que peut-être ces personnes, en raison de leur trajectoire souvent négative, répétée avec des institutions, quelles qu'elles soient, que ce soit l'institution conjugale ou l'institution scolaire, eh bien, ces expériences négatives les ont amenées à ne plus avoir envie d'eux. Et que peut-être la première tâche, c'est de leur donner envie d'eux, mais l'appétence, ça ne se recrée pas comme ça.
Marc-Henri Soulet, titulaire de la chaire de travail social et politique sociale de l'Université de Fribourg en Suisse, est l'invité du magazine.
L'appétence, ça ne se recrée pas comme ça. Et donc, ces espaces-là sont des espaces intermédiaires, des formes d'intégration relative, on va dire, qui permettent à des personnes de vivre et de survivre, on va dire, non pas dignement, mais en tout cas de survivre dans des conditions minimales, sans que pour autant on puisse appeler ça des programmes dits, des programmes d'assistance ou, et on le voit bien, des programmes de revenus minimum, quand, dans d'autres cas, sans qu'il y ait derrière la conditionnalité qui pourtant est chaque fois mise.
Il faudrait donner un nouveau profil de poste peut-être, notre nom
Alors, peut-être un autre nom ou pas, je pense que ça change pas. Pas grand-chose. Après, il y a des corps constitués avec, bien sûr, des filières de formation, avec des relatifs monopoles d'accès ou à certaines positions. Je crois que plus fondamentalement, c'est en quelque sorte le logiciel. Le mythe fondateur du travail social est un mythe éducatif qui est « je vais t'aider à te transformer pour que tu développes plus de fonctionnalités positives pour t'insérer dans le monde ». Et que cette dimension éducative, qui est fortement importante, méconnaît le fait que, pour un certain nombre de personnes, la situation ne peut plus relever de l'éducabilité dans un premier temps. Ça relève de quoi ? De la confiance en soi. Ça relève de la capacité à vouloir, je parlais d'appétence tout à l'heure, ça relève de toute autre chose que de l'éducation au sens de conduire. Hein. Éduquer, c'est conduire, de l'emmener quelque part. Là, sur le fond, c'est rester avec. Et pour beaucoup de personnes, bien sûr, la situation helvétique est particulière, je m'appuie dessus, mais c'est un révélateur. Quand vous avez 3,5% de la population active au chômage, vous ne pouvez plus dire vivement que le marché du travail reprenne pour qu'on règle le problème d'insertion des personnes qui ne sont pas insérées sur le marché du travail. Il faut bien admettre qu'il y a un certain nombre de personnes, en raison non pas de leur handicap physique ou psychique, c'est pas ça que je veux dire, en raison de leur expérience négative dans leur trajectoire biographique, ne peuvent plus fonctionner comme vous et moi. Et que dans un premier temps, il y a des logiques de réarmement, de réassurement, de revalidation de leur expérience au monde, de positivation de leur expérience au monde, qui ne peuvent pas se traduire par de l'efficace mesurable sur un retour au marché du travail ou sur des conduites qui seraient immédiatement des conduites, on va dire, normées. Normal.
En reconsidérant les normes, peut-être que ça va changer.
Récemment, la Suisse s'est prononcée. Je viens d'apprendre qu'il y allait avoir une nouvelle initiative qui allait être lancée dans ce sens-là. C'est lancée dans l'instauration d'un revenu minimum garanti. Il y a eu une initiative qui a été soumise à la Vox Populi. Elle n'a pas été acceptée, mais elle a eu un score très, très honorable. Donc il y a dans l'idée la possibilité que peut-être demain puisse donner un revenu minimum garanti à tout un chacun, non pas parce qu'il fait quelque chose, mais parce qu'il l'est, parce qu'il existe. Mais ça modifierait radicalement le rapport au monde. Et on a vu que certains hommes politiques, même s'ils l'ont peut-être payé après, certains hommes politiques français, lors de la campagne présidentielle, avaient avancé une idée similaire. Mais il ne faut pas imaginer que pour autant, ça réglera les problèmes. Donner un revenu minimum garanti à tout un chacun est à la fois la forme la plus égalitariste qui soit et la plus libérale qui soit. Puisqu'une fois que vous l'avez donné, qu'est-ce qu'elle en fait, la personne ? Vous postulez que cette personne est une personne raisonnable, sensée, prévoyante, prévenante, tout ce que vous voulez. Or, il faut bien imaginer qu'il y a un certain nombre d'individus qui ont besoin d'être étayés, excusez-moi le terme, ont besoin d'être soutenus dans leur rapport au monde. C'est justement ça qui est problématique. C'est pas parce qu'ils ont des problèmes, vous aussi vous avez des problèmes, moi aussi j'ai des problèmes. Ce qui est problématique, c'est que les personnes ont des difficultés à faire le lien entre leurs problèmes et la manière de les gérer ou de vivre avec. Donc cet étayage-là est nécessaire pour un certain nombre d'individus, provisoirement ou durablement. Donc la question du revenu minimum garanti est une très belle solution, mais elle ne règle pas le problème de l'étayage. Si je vous donne X milliers d'euros, et je suis généreux, vous voyez, X milliers d'euros par mois, rien ne me dit qu'au bout de 15 jours, vous ne les aurez pas dépensés et que partant de là après, soit je vous responsabilise totalement et je vous dis « débrouillez-vous pendant les 15 jours suivants », soit je suis obligé de faire en sorte qu'il y ait une intervention de la collectivité.
Merci à Marc-Henri Soulet, ancien résident annuel de l'Institut d'études avancées de Nantes, auteur des nouveaux visages du travail social, pour sa libre participation à ce programme.